Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne, 20h-21h en direct, en live pour parler sport, parler foot, pour échanger sur les sujets d'actualité sportifs. Bilal sera là d'ici quelques instants, mais en attendant, il fallait bien lancer l'émission, mais de fort belle manière, avec Vivien qui est à côté de moi. Vivien, comment ça va ?
Bah, ça va, Claude. Bonsoir à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.
Ouais, Vivien, les tirages au sort des coupes européennes, l'Europa League notamment, et la Ligue Europa Conférence. On va y venir dans quelques instants. C'est le premier sujet de ce soir. Et puis on parlera de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu en France, au Stade de France et non plus à Saint-Pétersbourg. On y reviendra hein, par rapport à l'actualité mondiale. Et puis Novak Djokovic n'est plus le numéro 1. On y reviendra également parce que ça va au-delà aussi du domaine sportif. Allez, on passe au premier sujet.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux, ce Vivien tirage au sort tant attendu qui a eu lieu cet après-midi. Vivien, tu m'as pas rattrapé ce midi. Avec bien sûr la nouvelle formule hein, de la Ligue Europa, la Ligue Conférence également les. Alors est-ce que toi tu t'en sais quelque chose? Tu sais des clubs qui sont reversés en Ligue Europa, en Europe Conférence. Enfin c'est un peu le bordel là. Hein.
Oui c'est un peu le bordel, mais on va dire on s'en est à peu près sorti. Alors on sait que les troisièmes de Ligue des Champions, dont le Barça qui a beaucoup fait parler.
Merci du rappel.
Ils ont eu un barrage, par exemple, hier soir, notamment le fameux Naples-Barcelone que le Barça a un peu surclassé. Donc, ce qu'on appelle le barrage, c'est un peu avant ce qu'on appelait les 16e de finale d'Europa League. Donc, les équipes qui étaient notamment premières en Ligue Europa, ils sont allés directement en 8e. Et puis, il y a certaines équipes qui sont passées par les barrages. Et c'est un peu pareil pour la Conference League. Cette semaine, on a eu des barrages avec notamment l'OM qui s'en est bien sorti hier. Donc, finalement, voilà, on a eu un système qui paraît compliqué quand on le lit, notamment sur le site de la FIFA, mais c'est juste ce que la FIFA appelle, plutôt l'UEFA, excusez-moi, l'UEFA, ce que l'UEFA appelle le barrage, moi je l'appelle comme un 16e de finale.
Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle formule? Pas mal été réticent au départ et au final.
Au final, alors moi j'ai plutôt une culture des sports co type basket et hand. En fait, par exemple, en basket, nous on est très habitué à avoir une première compétition qui s'appelle l'Euroleague, qui est un peu la Ligue des Champions, puis l'Eurocup qui est un peu comme la Ligue Europa, puis des compétitions en dessous. Donc je trouve que finalement l'UEFA se rapproche beaucoup du basket européen,
du modèle
dans ce modèle là. Ouais.
D'accord.
Et on a eu beaucoup de débats sur fameuse Super League, et cette fameuse Super League, moi ça me rappelait l'Euroleague par exemple.
D'accord.
Avec une ligue fermée, avec des invitations, donc moi c'est pour ça que j'étais peut-être moins perdu que par exemple beaucoup de nos auditeurs qui sont très fans de foot, qui suivent et débattent avec passion un peu comme nous, mais voilà, c'est la grosse incertitude cette année, c'était vraiment la Conference League. On voit une nouvelle compétition comme ça, on s'est demandé est-ce que ça allait être comme l'Intertoto à l'époque. Parce que l'Intertoto à l'époque, faut se souvenir, par exemple, il y avait 6 finales.
Alors l'Intertoto, je vais quand même rappeler, Vivien, ouais. T'avais les cheveux longs toi à l'époque, certainement. Ouais. L'Intertoto, donc c'était les équipes qui finissaient, tu devais t'en souvenir.
Ouais, entre 6.
Entre la 6e et la 6e et la 8e, 9e place. Ouais. Des matchs qui se jouaient au mois de juillet et au mois d'août. Ouais. Il y avait au moins 3 tours préliminaires pour disputer la Coupe UEFA et en général... alors chaque année il y avait une formule qui évolue un petit peu, mais on a surtout retenu la formule où tu avais 3 finales comme tu le disais Vivien,
c'est
et
ça.
En gros les 3 vainqueurs participaient simplement à un 32e de finale de la Coupe UEFA. On se souvient notamment par exemple de l'OM en 2005, entraîné par Fernandez, l'équipe de Niang, de Ribéry, de Nasri, avec Dreyfus qui danse sur la pelouse. Et on considère ça comme peut-être l'un des seuls titres de Dreyfus. En tout cas, ça avait marqué les esprits. Tu m'as parlé de cette Super League. Tu serais, toi, contre ou pour la Super League, Vivien?
C'est
au football, bien sûr.
Oui, bien sûr. C'est, C'est une bonne question. Alors moi, je suis quand même assez mitigé parce que, alors justement, autant au basket, je trouve qu'il y avait, il y a une vraie utilité à l'Euroleague parce que il y a des grosses disparités, notamment dans les ligues un petit peu européennes entre la Liga Endesa, peut-être notre JP Elite en France, etc. Mais par exemple, moi, pour le foot, moi, je trouve que la Ligue des Champions. Ça marche plutôt pas mal. Alors en termes d'audience, je sais que ça y a eu des soucis, mais moi je trouve que la formule Ligue des Champions, elle reste magique. On a des huitièmes de finale qu'on a eu avec beaucoup de suspense. Donc pourquoi faire une ligue fermée alors qu'on peut malgré tout les tours préliminaires justement là, ils sont bien. C'est que voilà, les équipes championnes de certains pays un peu plus modestes, ben ils doivent quand même passer par des tours préliminaires. Donc D'un côté, c'est voilà, Ligue des Champions garde un côté élitiste, mais aussi ça reste aussi accessible à tout le monde. Donc moi je trouve qu'il faut pas, et pour le coup il faut pas que le foot s'inspire du basket sur ça, non, clairement pas, non.
Alors Mourad vient de nous rejoindre, comment ça va Mourad?
Bonsoir, ça va très bien.
À l'instant, t'as vu, bim, tu rentres en jeu, pas le temps.
Exactement. Donc là, ni sur blessure, mais j'arrive un peu en retard. Donc désolé à tous nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent.
Il n'y a pas de souci. En tout cas, Vivien a fait le job. Il nous parlait, tu sais, de cette nouvelle formule, la C4, comme tu me disais hier soir. Donc il a un peu rappelé les règles entre ces tours de barrage, etc. Toi, Mourad, tu serais pour ou contre cette Super League qu'on entend toujours un petit peu parler, ou on va dire ces formules-là te vont pour le moment?
Pour le moment, ça me va. Moi, je change d'avis comme de chaussettes sur cet aspect-là. Parfois, je suis pro UEFA.
J'aurais dit comme de lunettes, moi, mais...
Ouais, exactement, c'est vrai que j'en change beaucoup. Parfois, je suis pro Super League. Là, pour l'instant, je pense que ce schéma-là, on va aller jusqu'au bout de toute façon. Donc, il faudra s'y tenir. Concernant les clubs français, par rapport au tirage au sort, je pense qu'il y a, pour moi, je dirais qu'il y a, c'est un peu la course, puisqu'il y a un duel France-Portugal au coefficient, Europe, justement.
Ouais, ouais.
Donc, mais concernant cette formule, moi, elle me convient très bien. C'est la C1, la Ligue des Champions pour les meilleurs, la C3 pour les un peu moins bons, et pour les repêcher, la C4. Donc tout va bien. Après, j'entendais justement Vivien qui parlait de l'équivalent de 16e de finale. Donc ouais, non, c'est tout se recroise, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai aucun souci avec cette formule, bien au contraire.
Les tirages au sort, justement, Mourad, merci, hein, tu nous fais la passe D. Les tirages au sort des huitièmes de finale de Ligue Europa qui se sont déroulés ce midi, notamment pour nos clubs français, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Duel franco-portugais, Braga Monaco et Porto Lyon. Les autres matchs, Glasgow Rangers, Étoile Rouge de Belgrade, FC Séville, West Ham, Barcelone, Galatasaray, Leipzig, Spartak Moscou, Betis Séville, Francfort et Atalanta de Bergame, Leverkusen. Quand on voit le tableau, avant de passer au club français, il y a des matchs extrêmement intéressants là.
Ouais, non, mais c'est
clair. Enfin, des clubs historiques, la Coupe d'Europe. Fin...
C'est clair. Il y a des belles équipes. J'ai l'impression que c'est des équipes qui ont privilégié le jeu au résultat. Quand je pense au FC Porto, à l'Atalanta. Notamment, donc il y a des équipes qui ont fait bonne figure, et là ce sont des vraies affiches de Ligue des Champions. Hein. Des Ligue des Champions plutôt version des années 2000-2010,
ouais,
j'ai l'impression.
C'est vrai.
Donc voilà, je lisais en prenant le pouls sur les réseaux sociaux concernant certains clubs, notamment le FC Porto, que c'était un club à ne pas sous-estimer. Je sais pas s'ils ont vu le FC Porto jouer cette saison, mais c'est du très très lourd. Surtout moi, même depuis le départ de Luis Diaz, du côté de Liverpool, ils ont une équipe incroyable avec Tehami, c'est ça, Karim Tehami, l'avancement du FC Porto. Il y a du Nicolas Pepe, ils ont même recruté Semedo de l'Olympiakos, lui qui avait fait la une de la rubrique Fait divers en Liga, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ils ont une équipe très homogène, très compacte, très technique, qui va vers l'avant. Donc ça va être du football champagne. Attention au faux pas pour l'Olympique Lyonnais.
Ouais. Vivien,
ça va être
On a souvent tendance à, excusez-moi Vivien, de sous-estimer. On se dit à chaque fois depuis 15 ans quand on tombe Porto, ah bah c'est bon, on n'est pas tombé contre le Barça de Real, on tombe Porto, ouais. Et en général au final le résultat reste le même.
Les clubs portugais nous ont souvent sorti justement dans la, alors j'allais dire l'UEFA parce que c'était avant dans la compétition un peu en dessous. Je trouve justement que les clubs portugais, ils nous ont pas souvent réussi en France. Donc moi quand j'ai vu ces deux affiches, je me suis dit qu'il y a les clubs français n'ont pas de marge. Les clubs français n'ont pas de marge. Ils vont avoir des équipes très joueuses. Ils vont avoir des équipes très ambitieuses. Vraiment Porto cette saison, ils ont à peu près 10 points d'avance dans leur championnat. Enfin, Et par exemple, Lyon, je trouve que c'est une bonne équipe en Coupe d'Europe. Alors, ils ont été très bons en phase de poule, mais ils sont tellement inconstants qu'au bout d'un moment, pour moi, ça risque de plus passer. Alors, c'est ça pour moi la grande crainte, notamment pour les Lyonnais.
Moi, je préfère, Lyon. Après, connaissant l'Olympique Lyonnais, je préfère voir l'Olympique Lyonnais tomber face au FC Porto que tomber face à Braga. On sait que l'Olympique Lyonnais fait de grosses performances face aux gros, notamment Manchester City, on s'en souvient, la Juventus de Turin. Et après, le FC Porto, pour moi, je pense que c'est un bon tirage pour les Lyonnais.
Les déconvenues, alors ça va jouer des deux côtés, oui, c'est peut-être dans ce côté-là.
Les déconvenues, quand on connaît le club un peu, elles sont plus face aux petits moyens clubs que face aux gros. Voilà. Après, le FC Porto, ils étaient dans le groupe de la mort. En Ligue des Champions, je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux groupe Milan AC, si je ne me trompe pas, Atlético Madrid et Liverpool. Donc voilà, donc ils arrivent quand même à finir troisième, sachant qu'il n'y a que des cadors. Ils avaient proposé un jeu alléchant, il y a même des pépites qui ont permis de rejoindre d'autres clubs un peu plus huppés.
Comme toujours.
Notamment Luis Diaz qui a rejoint Liverpool.
Comme
donc voilà, donc c'est, ça va être un super match. Il faut savoir aussi que le FC Porto, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de Mourinho, ils avaient éliminé l'Olympique Lyonnais. L'année du sacre, justement, côté portugais, à l'époque de Deco, de Maniche, exactement, en 2004. Merci Yanis, notre réalisateur, qui a une culture toute incroyable.
Ils avaient éliminé Lyon, et ils avaient...
Manchester United.
Ouais, et puis il y avait Marseille dans la poule, ils avaient gagné, justement, au Vélodrome.
Exactement. Toutes les équipes étaient une formalité, sauf en finale, où ça a été...
Exactement.
Justement, en finale, où ils avaient éliminé
l'AS Monaco. Aussi, ouais.
Un petit mot avant la pause, la C4, Mourad, Olympique de Marseille, Bâle, et puis Leicester, Stade Rennais.
Pour le coup, Bâle, il se trouve qu'ils sont beaucoup moins bien dans le championnat suisse, parce qu'ils sont que troisième. Enfin, je les trouve moins bien que les autres années, moi, l'équipe de Bâle. Alors, je sais qu'ils vont aussi proposer du jeu.
C'est une équipe qui est difficile aussi à manœuvrer.
Bien sûr, et puis ce sera un cran dessus que.
Aussi.
Alors, j'ai toujours du mal à prononcer l'équipe.
Karabakh.
Voilà, Karabakh, chaque fois, c'est. Ah, donc, j'ai préféré laisser Claude le dire. Donc, ce sera un cran au-dessus de Karabakh. Donc, ça va être intéressant pour Marseille.
Qui reçoit dans un prix.
Oui, après, c'est. C'est vrai, Bâle, c'est un peu les montagnes russes avec le FC Bâle. Parfois, ils sont capables de sortir une génération incroyable, de permettre aussi à des talents d'éclore. On se souvient que Mohamed Salah avait joué au FC Bâle. Après, on peut dire merci l'Albanais, Altim Lala, qui a permis à l'Olympique de Marseille de tirer le FC Bâle, qui n'est pas au top de sa forme. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste du championnat suisse, mais c'est les Young Boys de Berne. Pas de merde, mais de Berne, qui domine le championnat suisse. Donc voilà, donc je pense qu'ils sont favoris, hein, les hommes de Sampaoli, sur cette.
Le Stade Rennais, il y a un bon match affiche. À jouer là, contre Leicester, ça va être.
Par contre, le Stade Rennais, c'est une superbe affiche. Le Stade Rennais, Genesio, il perd jamais contre les Anglais. Leicester City, il y a quand même des individualités incroyables. On s'attend à un gros match du côté de Leicester.
Merci Morane, merci Vivien. Une page de pub, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, la voix, elle a changé. Et je rappelle, et je tiens à le dire, un grand merci au coach Tollet d'avoir manifestement bien fait ses émissions, bien réalisées en la compagnie de Giovanni, le réalisateur, mais toi, si bien orchestré et animé, le coach Tollet. Voilà, un grand merci. On retrouve les auditrices et les auditeurs de Beurre FM en la compagnie de Mourad, sans oublier notre consultant Vivien. Mourad, peut-être une chose à nous dire, à nous raconter alors.
Non, je voulais faire une petite dédicace à Fatia.
À Fatia, voilà. Oui, Fatia, c'est ça, elle nous écoute ce soir.
Qui a été notre VTC ce soir et qui nous a été d'une grande aide. Donc en ces périodes de bouchons, justement, vendredi soir, de fort trafic, on voulait la remercier et la saluer.
Voilà. Ah ben justement.
Elle t'a pas boycotté, ça c'est important quand même. Parce qu'il y en a quand même certains
c'est
qui...
Vrai. Elle a pas annulé sa course.
Ouais.
Et j'étais en train de réfléchir, je me disais, imagine si justement Claude Tollet avait refusé justement de laisser son micro, un peu comme Kix et Coman à l'Euro.
Ah, pourquoi pas, c'est vrai?
Ça aurait été incroyable.
Ah ben oui.
Qu'est-ce qu'on aurait fait justement avec Claude Tollet?
Je sais pas. On aurait séparé. Ça serait une belle scène de MMA. C'est bien ça, hein.
Il y a de la place, hein, pour.
Ah oui. Le coach Tollet, c'est un beau bébé. Ça, faut le rappeler aux auditeurs et aux auditrices de Beurre FM. On a parlé, Mourad, de ce fameux tirage, de cette Coupe d'Europe qui est l'Europa League. Après, il y a aussi cette Coupe que joue Marseille pour la première fois. Peut-être encore à jamais les premiers, le coach Tollet. Certains clubs joueront à fond, certains d'autres non.
Bah, dans la lignée des à jamais les premiers, déjà, c'est la première fois qu'ils vont jouer contre Bâle.
C'est ça.
Donc, du coup, déjà, à jamais les premiers.
Les Parisiens ont pas mal joué contre le FC Bâle. C'est vrai.
Ils ont joué contre Sion à l'époque, dans les années 90, je sais pas si
c'est vrai. Élimination.
Élimination. Ils perdent.
De l'UEFA.
2-0 là-bas et ils perdent 4-1 Marseille gagne 4-1 au Vélodrome mais insuffisant.
Exactement. Pour là-bas.
Non, gagne 3-1 au Vélodrome, mais insuffisant pour se qualifier. Il y avait encore donc cette règle du but à l'extérieur. Et hein, sur une erreur entre Cazoni et Barthez.
Exactement. Culture foot. Claude. Merci de nous étaler ta science, ta culture foot.
Et l'OM était en
90.
D2 à cette époque. Ils étaient en D2.
C'est vrai. Non, mais comme quoi le football suisse a aussi une petite histoire. Hein. À l'époque, c'était le Grasshopper de Zurich. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
À
du
époque,
côté suisse. Et là, ça change. Il y a eu le FC Bâle. Et là, maintenant, c'est les Young Boys de Berne qui dominent le championnat.
Ils sont toujours là. Dans l'Europa League, ces dernières années, c'était vraiment pas mal.
Donc voilà, il y a aussi il y a Lugano, il y a certains joueurs, notamment Amoura, international algérien.
Et tous les 12 ans,
grand espoir qui a rejoint le championnat.
Et tous les 12 ans, ils ont toujours une génération qui est pas trop mal. En 94, t'avais Alain Suter, t'avais des Chapuisat, des mecs comme ça.
Exactement.
Recruté
Alexandre Frey.
Il y avait
un flop. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était Gonzalez, un flop argentin qui était du côté du championnat suisse, qui avait rejoint l'Olympique de Marseille. Je sais plus, c'était Rodriguez ou Gonzalez, je sais plus trop. Il était chauve, meilleur buteur du championnat suisse, il avait rejoint l'Olympique de Marseille.
Non, ça vous dit rien? Riménez. Provenance de l'Allemagne.
Non, Riménez, il a joué en Suisse.
Il avait coûté cher en plus.
Il avait fait l'Allemagne et Suisse aussi, il était retourné en Allemagne.
Exactement. Il a été un flop aussi.
Riménez, il avait marqué lors de son premier match contre Ajaccio, puis plus rien derrière.
Donc ils ont quelques tops, mais aussi quelques flops.
Quelques flops aussi.
Exactement.
C'est fou quand même.
Il y a les frères Yakin à Bâle aussi, d'ailleurs, que l'OM va affronter, mais c'est d'anciens piliers justement de ce club-là.
Ouais.
Mourad
ouais.
Yakin et Hakan Yakin.
Exactement, les frères, ouais. Il y en avait un, je crois, d'ailleurs, qui avait signé au PSG, vu un accord. Alors. Au PSG, enfin, non, il était au PSG, je crois.
Bien sûr, c'était au début de l'ère Qatari, si je me trompe pas. Genre, c'était pendant la transition.
La transition, l'ère un peu colonie, capitale, c'était un peu compliqué. Et il y a un des frères qui était là, il a quasiment jamais joué. Enfin,
je pense que les Qataris avaient vu son CV et l'ont remis tout de suite en dessous de la pile. Et ils sont partis aller chercher des Pastore et les joueurs qu'on connaît.
Mais pour en revenir à cette C4, c'est vrai que quand tu vois les clubs, alors surtout ne pas sous-estimer, mais tu te dis qu'il y a de la place pour les clubs français, même le Stade Rennais. Enfin, quand je vois le match de Leicester Rennes, je pense que le vainqueur de cette rencontre sera pas loin. Et si Marseille la joue sérieusement, tout va dépendre de ce qui va se passer aussi en Ligue 1. Il y a quand même pas mal de paramètres parce que là, c'est un peu, il y a un peu des hauts et des bas, mais il reste quand même deuxième et qualifié en huitième de finale. Franchement, pourquoi pas? Tu vois la AS Roma qui m'a l'air d'être peut-être sur le papier l'équipe la plus importante, mais un Roma Marseille, enfin.
Oui, reste.
Faut voir après, hein. Attention.
Ça peut être le dernier carré.
Hein.
Après, il y a une question d'ordre. Je sais pas comment ils vont se retrouver, mais en tout cas, Rennes, moi, je les vois bien. Je dirais pas qu'ils sont favoris, en tout cas, parce que encore une fois, en prenant le pouls sur les réseaux sociaux, je vois que tout le monde s'enflamme en disant Rennes est favori, etc. Attention à Leicester, il y aura peut-être le retour de Fofana en défense. Il souffre un peu en défense, Leicester City. Mais offensivement, ils ont une armada incroyable. Il y a aussi le retour de Jamie Vardy, qui serait de retour de blessure. Après, on connaît les Madison, les Perez, etc. Ils ont une équipe incroyable. Il y a Iheanacho, aussi l'international nigérian.
Il y a une belle équipe, Leicester City.
Donc voilà, ça va être du 50-50. Après, c'est le facteur X pour moi, ce sera Genesio. Je pense que Brendan Rodgers, il va appeler Pep Guardiola, il va lui dire, écoute, comment jouer face à une équipe comme face à un système de jeu qui est celui de Bruno Genesio, parce qu'il a perdu contre
Guardiola plusieurs fois.
Genesio, il a jamais perdu contre les Anglais.
Bah oui, mais Guardiola va pouvoir l'aider alors pour ça.
Voilà, exactement. Bah justement, il va lui dire, si j'avais su, j'aurais fait comme ça.
J'aurais mis Marais sur le banc.
Voilà, exactement. Il va lui dire de sortir son armada. Se méfier du Stade Rennais, ils ont aussi une très belle équipe sur toutes les lignes, ils ont une solidité défensive, ils ont une identité de jeu. En témoigne justement le dernier but qu'ils ont inscrit en championnat, je sais pas si vous l'avez vu, le but de Terrier, je sais plus c'était contre qui d'ailleurs, où c'était une séquence d'une minute.
Une belle équipe
pour arriver dans la surface sur un plat du pied sur un but de Martin Terrier, c'était incroyable.
Mais un petit peu à l'image de on le dit depuis le début de la saison, c'est que là on a quasiment à deux trois clubs près les meilleures formations françaises. Donc là t'as envie de rêver un petit peu, t'as envie de voir voir Lyon Monaco faire un
coefficient UEFA, c'est sur à l'instant T peut-être, mais en fait il y a un historique à prendre en compte, et tu sais très bien que les coefficients se remettent à jour, je crois, tous les ans.
Oui,
ou tous les 4 ans, autant pour moi.
Et une vraie bataille avec les Portugais d'ailleurs.
Tous les 4 ans, à vérifier. Bah oui, là c'est.
Elle a toujours été cette bataille, le coach.
Ouais, mais ça joue, ouais, ça joue à pas grand chose, hein, mais c'est vrai que quand on regarde ce classement dont j'en fiche un petit peu, mais qui a quand même son importance, Porto. Les Portugais sont là.
C'est plus de coupe européenne que la France.
Ça, on ne cesse de le dire, hein.
Porto, Benfica.
Bien sûr.
Alors qu'en France, on est simplement à deux coupes.
Dommage, on compte pas les Intertoto.
Une Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille, même si pour moi c'est même un ancien format. Elle est même plus du niveau de la Ligue des Champions actuelle.
Et racheté aussi.
Exactement, et une Coupe d'Europe côté.
Ça ne regarde que Vivien, hein, disant que ça a été acheté, mais comme le dit Mourad, c'est vrai qu'on oublie un peu trop souvent, et ça c'est pour moi très français. Nous on s'exprime comme si on avait gagné des dizaines de Coupes d'Europe.
On en a que deux. Oui.
On n'a que deux.
C'est Coupe d'Europe.
C'est
Coupe d'Europe.
C'est vrai,
la Coupe des clubs champions.
C'est vrai, mais il faut les gagner à un moment.
Le trophée Jules Rimet aussi, la Coupe du Monde.
C'est vrai.
Et été refaçonné par les Italiens.
Les Anglais ont inventé le football. Voilà. Ils ont gagné une Coupe du Monde en 66. Hein.
Ouais.
Donc.
Inventer
n'est pas être propriétaire.
En tout cas, il y a des beaux matchs qui arrivent. Là, il y a des vrais beaux matchs qui arrivent. On va se régaler, à mon avis, là.
Ah, c'est clair. Moi, j'ai hâte de voir ce stade rennais, Leicester City.
Parce que ça va jouer.
Ouais, ça va jouer. Il y a des bons joueurs des deux côtés. Il y aura l'ambiance Première Ligue parce que les Bretons, ils ont un côté
une grosse ambiance à Rennes.
Le Stade Rennais peut même postuler à la Première Ligue. Ils ont tellement joué contre les Anglais ces dernières années que ils peuvent postuler à rejoindre la Première Ligue.
C'est vrai.
Donc ils ont l'habitude ces Rennais.
Ben, finalement, en début de saison, on débattait même ici sur Time Sport. Est-ce que la C4 sera une réussite? Moi, quand je vois les affiches, je trouve plutôt que. Enfin, moi, il n'y a pas que les deux affiches des clubs français. Enfin, même le match de la AS Rome, ça me donne envie de le voir. Enfin, quand je vois vraiment.
Il joue qui, Rome?
Il joue contre la Vitesse.
Vitesse Arnhem.
Les Hollandais.
Entre un peu les clubs un peu historiques comme Eindhoven, Copenhague, par exemple, moi je trouve que c'est une affiche que j'ai envie de voir pour voir un peu comment ces clubs.
T'as envie de voir les joueurs, t'as envie de voir un peu ce qu'ils proposent.
Pour sortir ce qu'ils proposent. Donc finalement, moi je trouve que c'est super intéressant. Tout.
Ouais, le Feyenoord de Mario Götze et puis entouré de jeunes, virevoltant. Le Feyenoord aussi, c'est incroyable.
Ouais, un club historique également,
C'est un club historique, c'est incroyable.
Allez, on va dérouler avec le menu de l'émission de ce soir. Après l'Europa League, ouais, Yanis, je sais pas, il va déjà partir en week-end. Reste doux, Yanis. La Champions League arrive à toi, Yanis. Eh oui, Yanis, la Champions League arrive donc sur Paris. Allez, on y va.
Time Sport. Le duel.
C'est vrai, Mourad. Le duel, il est assez féroce. Hein, on ne comprend plus. C'est l'UEFA, c'est la FIFA, c'est l'État français. On ne sait pas. En tout cas, la Ligue des Champions arrive bien à la finale délocalisée. Elle devait se dérouler en Russie, à Saint-Pétersbourg. Mais non. Cette fois-ci, ça sera en France, du côté de Saint-Denis. Une motivation peut-être supplémentaire, Vivien, pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien. Eh oui, la belle année 2022 pour le Paris Saint-Germain. Oui, une année française, quoi.
Ah ben,
ou francilienne.
Là, bon, malgré les circonstances actuelles qu'on connaît tous, la Ligue des Champions qui arrive comme ça à Paris, pour le PSG,
ça
c'est
fait plaisir.
On se dit, si ça, c'est pas une motivation suprême, avec toutes les rumeurs de Mbappé au Real, on sait pas ce qui va se passer l'an prochain, on se dit que ça peut être un scénario parfait.
Moi, je comprends pas toute cette effervescence autour du rapatriement, parce que pour moi, c'est limite cette Ligue des Champions. Elle a un statut de réfugié cette année. Elle était censée se passer à Saint-Pétersbourg. Elle arrive à Saint-Denis. Bon, elle change juste de sein si on voit le verre à moitié vide. De Saint-Denis à Saint-Pétersbourg. Mais ceux qui se réjouissent justement de cela en disant c'est le premier coup de Macron, etc., etc. Maintenant, c'est simplement, elle a un statut de réfugié. Je pense qu'il faut avoir une approche humble vis-à-vis de cette délocalisation. Et quand on voit, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux Jean-Michel Blanquer en tweetant la Ligue des Champions, arrive à Paris.
Ouais.
Bah, je trouve ça malheureux. Voilà, je trouve ça désolant. Je me dis que c'est une des premières, on va dire, conséquences de ce conflit sur le football. Il y en aura d'autres. Il y aura le championnat ukrainien qui va être impacté. Il y aura les équipes nationales aussi en vue des barrages. Donc c'est une des premières mesures lourdes qui vont impacter justement le football. Ouais. Et donc moi je trouve ça malheureux.
Ouais, je rejoins Mourad. Je rejoins Mourad, il y a un peu de respect, quelles que soient les raisons. Ouais. Moi j'aurais préféré qu'elle se déroule à Saint-Pétersbourg, voilà, ouais, clairement.
Ça veut dire que
maintenant elle a lieu au Stade de France. Qu'elle ait lieu au Stade de France ou à Tirana ou à Giuseppe Meazza ou autre.
C'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain.
Ça, final, ça, ouais, ça veut rien dire. Ah, ça. Non, moi, je peux te donner des exemples de deux clubs qui ont joué à domicile et qui ont échoué. Donc, ouais.
Excuse-moi Claude, je pense même que ça peut être un porte-malheur pour le Paris Saint-Germain quand on sait que la saison dernière s'était tenue il y a quelques années à Munich et que le Bayern n'avait pas pu la jouer. Pareil pour la Roma au Stade Olimpico. C'est limite un porte-malheur, le fait d'avoir. Ah ouais. Et en plus, c'est pas à domicile. Hein, le stade du Paris Saint-Germain, c'est pas le stade de France. Hein.
Ouais.
C'est le stade du Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. Moi, j'aurais préféré qu'elle soit au Parc des Princes. Là, j'aurais dit OK, sympa. Ouais. Là, ça se déroule à Saint-Denis. Ouais. Il y a une piste d'athlétisme. C'est pas la meilleure des affiches. Et généralement, c'est les clubs espagnols qui gagnent au Stade de France en 2000.
Aïe, Mourad, près des dons. Le Real,
c'est 2000, c'est le Real, et en 2006. Et puis Barcelone, Arsenal, c'est Benzema qui gagne.
Non, mais il a raison. Et puis surtout, même si t'as une finale qui a lieu en France. Alors ce serait forcément très bien, tu aurais une majorité de Français, faut pas oublier
qu'en
termes de nombre de places, en termes de quota de places, que tu sois en France ou je ne sais où, t'as un quota pour les supporters aussi. Donc c'est pas comme si
un pays derrière le club toute la semaine. Ouais, mais
l'équipe qui arrive au Stade de France pour jouer une finale de Ligue des Champions, elle se dit pas que Vivien supporte le PSG et ça va nous effrayer. Enfin, le stade il est à 50-50 hein, dans le stade. Oui. Hein, donc
sachant que Macron lui-même supporte l'Olympique de Marseille, donc il en a que faire du Paris Saint-Germain. Et même j'irais même plus loin au niveau du scénario, imaginez que ce soit Jean Lassalle qui remet la Ligue des Champions à
Lionel
Messi ou à Cristiano Ronaldo. On n'est même pas sûr de voir Macron élu et remettre le. Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est le président
Jean Lassalle a bien eu sa signature,
c'est vrai.
En tout cas. C'est vrai.
Imaginez le scénario. Un Jean Lassalle qui remet le trophée de la Ligue des Champions à Lionel Messi ou un capitaine quelconque, ça peut être CR7, ça peut être.
Pourquoi pas.
Ça peut être Vivien Guetta du côté de Chelsea.
Ah oui, il faut rêver selon Vivien.
Non mais c'est
là c'est un cauchemar, Vivien, dis-le, t'as le droit.
C'est dur de rebondir. Non mais pourquoi pas, c'est en tout cas le président, ça on verra le 10 avril, mais pour la Ligue des Champions, enfin malgré tout oui, le seul souci c'est que Mourad, je trouve que t'as pris le pire exemple avec Blanquer, enfin pour l'exemple d'un ministre qui se vante un peu dessus, et pour le grand public, oui, le grand public, on
c'est un peu indécent quand même ce tweet.
Oui, par rapport à la situation, oui. Il y a un manque d'humilité clair quand même là-dessus.
Là, on est dans un contexte de conflit, il y a une guerre entre. Il y a des chars qui se déplacent, et toi, tu tweets une photo de la Ligue des Champions en disant elle revient à Paris. Je trouve que c'est totalement indécent de sa part.
Même hypocrite, parce que 2 heures avant, il est là à appeler la paix, 2 heures après, il est là à se réjouir d'un match, même si on est passionné de foot par rapport à la situation actuelle,
c'est
une goutte d'eau.
C'est vrai. Mais Vivien, j'aimerais te dire que le football français, la place française dans le football international a revu son bureau. Se délocaliser sur Paris, Mourad, dernièrement.
Ah, c'est peut-être aussi pour ça que
qu'elle a vraiment.
Été. Je crois que c'est dans un hôtel. C'est l'hôtel.
L'As de la Concorde.
Exactement.
C'est ça.
Je pense que ça
aurait été mieux à côté
de la FIA.
Et je pense que ça a joué sur ce choix du Stade de France.
Ouais.
Voilà, je pense que ça a joué puisqu'on est là dans le. C'est limite du lobbying. Hein.
C'est du lobbying.
On verra bien.
Voilà, et donc.
Ce qui se passera en tout cas.
Même si c'est une conséquence, j'ai l'impression aussi que participe à. Voilà, un certain lobbying. Et c'est malheureux de voir ça.
Mourad reste avec nous, avec le coach Tollet et Vivien. Vous aussi, chers auditrices et auditeurs, la dernière partie arrive assez vite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM, la dernière partie de cette émission. Vous êtes en week-end, n'oubliez pas, écoutez la radio de la diversité Beurre FM allez, aux quatre coins du pays, Aix-Marseille, le 92.6, tout comme Mourad qui le fait. La Bastia, fait beau là-bas, 90.8, le Côte Tolé ou sinon sur internet, beurrefm.net, c'est bien ça?
Exactement.
Bratislava, ou encore Sydney.
On exactement. Ou Kinshasa.
Aïe, là, c'est Brazza aussi.
Sur l'application, effectivement.
Sur l'application à Kinshasa, entre un match du Vita Club et du TP Mazembe, voilà, tu t'écoutes tranquillement Time Sport.
À la mi-temps de la GS Kabylie, voilà.
Ah ben, Yacine, il est en vacances cette semaine. Ah ben oui, il est en vacances, Yacine. Oui, Yacine, comme elle nous manque, Yacine. Boula, aussi, il doit être au resto, là, Boula. Hein. Faire le rejoindre peut-être après.
Mais là, il doit être bien accompagné.
Hein, bon, bah, oui, allez. On va rester sur le Paris Saint-Germain, justement, avec cette fameuse Ligue des Champions.
Sport. La troisième mi-temps.
Eh oui. Les belles soirées, c'est ça? Le coach Tolé vous en fait partager. Avec Mourad, c'est sûr. Si tu veux aller dans une bonne table, tu vas voir Mourad. Ça, c'est sûr. Ah ouais, tu iras. Un petit coucou à Iker aussi ce soir.
Le coach de Pique s'est qualifié en demi-finale de la Coupe des Yvelines. Il est très demandé.
On tient le rappeler, c'est vrai. Bravo, fille. Bravo, coach Tolé. Oui, Mourad, un cadeau empoisonné. C'est bien ça, cette finale au Stade de France, on le rappelle, qui a été délocalisée de Saint-Pétersbourg à Paris. Dans sa banlieue, c'est ça, le Stade de France, pour voir peut-être briller le gamin de Bondy, on l'espère, Kylian Mbappé.
Oui, ce serait un petit clin d'œil peut-être à Kylian Mbappé, peut-être pour son dernier match avec le Paris Saint-Germain, on ne le sait pas.
Ah ben on ne sait pas encore.
Est-ce qu'il va renouveler? Est-ce qu'il va changer d'air? Donc on ne sait pas. Après, comme je le disais avant la pub, le Stade de France n'est pas le stade du Paris Saint-Germain. Oui. C'est un stade qui a été conçu pour les grands événements, la Ligue des Champions en est un. Donc voilà, je pense même que ce soit même plus arrangeant, peu importe l'équipe qui va évoluer sur ce terrain, que ça se joue à Saint-Denis et non pas à Paris, à Saint-Denis qu'à Saint-Pétersbourg, parce qu'on est au centre de l'Europe, on n'est pas très loin de Londres, on n'est pas loin de Bruxelles,
d'Espagne,
voilà, c'est accessible très facilement pour les supporters, il y a toutes les commodités prévues. Donc voilà, après
ça a dû jouer ça, hein, je pense aussi. Hein.
Je pense que ça a joué, bien sûr. Après il y a Bilal qui l'a annoncé aussi, il faut lire entre les lignes. Il y a le fait que il y a des bureaux qui sont ouverts récemment, c'est des bureaux de l'UEFA, hein, c'est ça, Bilal?
De la FIFA,
donc carrément, qui sont ouverts récemment sur Paris. Donc voilà, peut-être qu'il y a un agenda. Donc voilà, ça fait partie du projet, j'imagine. Après, il y a toutes ces. Je pense que elle a lieu au Stade de France, et parce que c'est un stade qui contient plus de 50 000 places. Alors que le Parc des Princes,
47 000.
Voilà, exactement, on est inférieur à 50 000. Donc voilà, après, les finales qui se perdent mieux, enfin, je sais pas, je suis assez partagé. Il y a, comme je l'ai dit, il y a le Bayern de Munich, il y a la Roma qui a perdu des finales à domicile. Donc voilà, ça peut être un crève-cœur. Voilà, ça peut être vraiment sortir par la
comme
plus
dit,
petite
Paris
porte possible pour les Qataris.
Ça ferait mal, ça.
Ouais, mais Kylian Mbappé le sera. Tu vois, et on reste quand même à vol d'oiseau, on doit être quand même à moins de 10 km. Donc
Et puis avant de s'enflammer, il y a un match retour face au Real Madrid.
Le
PSG a clairement mérité sa victoire. Il y a pas à dire. Maintenant, on est qu'à la mi-temps d'un match. J'ai du mal à imaginer un Real Madrid. Voilà, comme on l'a vu il y a quelques jours. Donc va falloir que le PSG face à un aussi, voire encore un meilleur match pour se qualifier. Il y a eu 15-0, donc va falloir sortir, je pense, un grand Real Madrid. Justement. Mais à Paris de faire le boulot, ils en ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut.
On va revenir sur ces matchs de Ligue des Champions.
Mais clairement, rien n'est fait.
Ouais. Les matchs de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, Mourad en parlait. Ouais, cette finale se joue en France. Et aussi cette attractivité, Mourad. Et oui, le coach Tolé, on la voit plus, selon certains, depuis cette annonce du but à l'extérieur, Vivien. C'est vrai, on a l'impression de voir des matchs un peu, comme ci, comme ça. Il y a plus cette ferveur. Non, mais vraiment.
Le but
c'est pas moi qui le dis. Oui, avec le but à l'extérieur. Et c'est huitième. On va voir, lors des matchs retour, Mourad, Vivien.
Moi, je pense qu'avec l'annulation du but à l'extérieur, on ne joue plus aux échecs, on joue aux dames. Donc, c'est-à-dire qu'on aborde, il n'y a plus de stratégie long terme. On aborde les matchs match par match et il n'y a plus de calcul qui se fait. Il y a l'avantage de jouer à domicile et il y a l'inconvénient de jouer à l'extérieur, tout simplement. Donc voilà, après, je ne vais pas faire mon complotiste, mais qui est à l'origine justement de cette nouvelle règle? Je l'avais évoqué la dernière
fois.
Le Paris Saint-Germain, c'était la saison dernière, c'est ça? Avait éliminé
Le
Bayern de Munich, justement, grâce justement à ce fameux but à l'extérieur. Et comme par hasard, cette année, bah, c'est cette règle disparaît. Donc j'ai l'impression que il y a plein de choses qui vont à l'encontre du Paris Saint-Germain. Il y a le but à l'extérieur.
Oui, Mourad.
Il y avait quoi d'autre? Il y avait le fair play financier aussi. Ouais, quand QSG a repris les rênes du Paris Saint-Germain,
ça fait du bien d'avoir une nouvelle règle.
Tu penses qu'ils ont enlevé le but extérieur par rapport à la performance
J'en suis convaincu parce qu'il y a un lobby des clubs traditionnels qui s'effectue. Et quand on connaît les règles de communication du Bayern de Munich, qui est très actif en coulisses, je pense que ça a pu jouer. T'as des nouveaux clubs qui arrivent, qui n'ont pas forcément les stades pour l'émulation des supporters pour pouvoir gagner justement à domicile et avoir un duel 50-50 domicile extérieur. Ben ils sont obligés d'éliminer certaines règles. Donc j'essaie de comprendre, de prendre du recul par rapport à ça, mais je trouve ça bizarre au niveau de l'agenda, comme par hasard. Fair play financier, l'année de la reprise du QSG, la règle du but, l'annulation de la règle du but à l'extérieur, l'année où le PSG élimine le Bayern. Donc voilà, j'essaie de réfléchir par moi-même.
Alors Vivien, on va donner la parole au coach.
J'ai bien aimé sa métaphore entre les échecs et les dames, mais par exemple, j'ai pensé au match de cette semaine à Atlético Manchester et je trouve que le fait que justement il y a l'annulation de cette règle, ben moi je trouve que le match aller a servi à rien limite. Enfin, t'as eu un partout comme ça.
Ouais.
Finalement, les deux équipes se sont pas vraiment livrées.
Et ça, on a vu Manchester, ce que l'on dit.
Après, surtout Man United, après l'égalisation, ils ont absolument rien proposé. Donc, on a l'impression qu'au contraire, cette règle, on se dit, bon, ben, on va voir au match retour ce qui se passe. Et,
c'est vrai qu'au-delà de la stratégie.
Elle n'est pas d'accord, vas-y, le coach,
au-delà de la stratégie du jeu, ça a ses limites, comme tu dis. C'est que Manchester s'est déplacé en Espagne. Oui, c'est ça. Donc, tu sais qu'il est important quand même de marquer à l'extérieur, que ça va compter justement pourquoi elle avait été mise en place, pour justement obliger l'équipe à quand même proposer quelque chose, à attaquer et ça rentre dans une brèche et tu peux proposer pas mal de stratégies. C'est vrai que là, comme tu dis, t'as mis ce but à l'extérieur, ça fait un partout, mais au final balle au centre et on attend le match retour.
Je pensais qu'il manquait un petit truc. Moi je pense que c'est là, en fait, le message que t'envoies au club en éliminant cette règle, c'est gagne chez toi. Avec le score le plus large possible. Donc, c'est-à-dire, instaure une équipe offensive. Et c'est ce qu'a fait Simeone. Simeone, d'habitude, il met une équipe ultra défensive, à domicile comme à l'extérieur, et advienne que pourra. Il l'a fait notamment à Liverpool, où il va faire un résultat on field. Là, il se dit, oula, je suis obligé, il n'y a plus de règles à l'extérieur. Donc, mon objectif, c'est pas de me projeter sur le match suivant pour marquer un but à l'extérieur et fermer la boutique. Le but, c'est de gagner à domicile avec les armes que j'ai. Et quelles sont les armes dont j'ai en lui à disposition? C'est João Félix, c'est Antoine Griezmann éventuellement sur le banc qui peut marquer un but dans le dernier quart d'heure, etc., etc. C'est Correa, et j'en passe. Donc, son objectif, c'était de gagner à domicile. Il l'a montré en première mi-temps, Simeone. Et après, Rangnick, le père fondateur du contre-pressing, n'a rien montré en première mi-temps, et c'est grâce à ces changements à la mi-temps où il s'est dit j'essaie quand même de repartir avec un score, non pas un but marqué à l'extérieur, mais au moins essayer d'avoir un match nul pour que je puisse gagner à l'aise à domicile à Old Trafford. Et je pense que c'est des calculs comme ça niveau résultat. On ne mesure pas les buts, mais on essaie d'avoir un résultat. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur le rapport but marqué à l'extérieur, but marqué à domicile. On essaie de faire un résultat à l'extérieur pour pouvoir mieux recevoir à domicile, ou vice-versa.
Moi, surtout, j'attends beaucoup le Real Madrid-PSG parce que je suis persuadé, moi, qu'Ancelotti, justement, il s'est beaucoup adapté à cette règle parce que le PSG-Real, malgré l'énorme prestation des Parisiens, il ne faut pas oublier que le Real, au bout d'une minute, ils sont revenus 30 mètres. Au bout d'une minute, moi je me souviens très bien du début de match.
Il dit qu'il s'est trompé de stratégie.
Oui, mais c'est publiquement, il a été obligé de faire son aveu parce que.
Tu crois vraiment. Ouais. C'est quand même étonnant de voir des Casimiro, des Modric et des Kroos reculer. Moi je les ai rarement vus reculer, ces mecs-là.
Non,
mais tu vois, tu penses qu'ils ont reculé face à Danilo Pereira, face à. Tu vois, elle est bizarre comme la stratégie.
Moi, j'ai l'impression que le Real a attendu au match aller au Parc et que moi, je crois vraiment à la qualification du Paris Saint-Germain, que le PSG a les atouts pour, mais je m'attends vraiment à un Real Madrid totalement différent.
Ah, ça, c'est sûr.
Bah, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain aurait dû en marquer plus au Parc des Princes. Et là, c'est une question d'efficacité. Et peu importe le système qui est en face, du côté du Real Madrid, c'était au Paris Saint-Germain de faire le boulot et ne pas attendre la 93e minute pour ouvrir le score. Ils avaient les opportunités. Moi, je pense qu'ils avaient même prédit que le Real Madrid allait venir avec un bloc bas parce que Karim Benzema est revenu de blessure, d'accord. Il aurait pu lancer Gareth Bale. Karim Benzema, physiquement, il n'était pas
en pleine possession
de ses moyens. Il jouait pas sur la profondeur. Vinicius était très bien pris par Hakimi, donc on savait très bien que ça allait pas jouer sur la profondeur, que ça allait plus jouer en bloc avec un jeu très bas en essayant éventuellement de passer par les côtés, et qu'ils allaient plus essayer de contenir les attaques du Paris Saint-Germain pour pouvoir sécuriser un score. Donc voilà, après ensuite, faut les contourner les blocs, et c'est à Pochettino de trouver les moyens, etc. Par contre, il est vrai, à Bernabéu, ça va être un autre match. Mais quand on regarde, il y a toujours des rapports de force, de toute façon, possession versus système bloc bas. On l'a vu, le Paris Saint-Germain, c'était le Real Madrid face à City, je sais pas si vous vous souvenez, en phase de poule, c'était le Real Madrid du Paris Saint-Germain. Vous voyez ce que je veux dire? C'était à domicile, ils ont évolué comme le Real Madrid l'ont fait au Parc des Princes, avec un bloc bas où ils se sont fait manger sur la possession de A à Z, mais ils ont quand même réussi à gagner.
Voilà. De zéro, ouais.
Et donc c'est le match-là que va essayer de faire le Real Madrid à Bernabéu lors du match retour.
Voilà. Ouais. J'espère. Une qualification.
Et là, Benzema
française, donc le français.
On espère. Le PSG, elle est carte en main.
Une qualification du Real ou une qualification?
Une qualification
parisienne,
quand même. Pour les clubs français, non, mais ils en ont les moyens. Intéressant de voir Neymar
quand
il va monter en puissance. Comment?
Monsieur Antonetti, il faut le laisser tranquille.
Si je peux finir.
Alors,
il est pour les clubs français. Lors des compétitions européennes, à condition qu'ils soient arbitrés de la même façon en championnat.
Exactement.
C'est ce qu'il avait dit.
Exactement. Exactement. Non, ouais, ils en ont les moyens, en tout cas. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un petit peu. Alors, je dis pas l'année ou jamais, hein, mais ça doit être normalement la bonne année. Mais quand on voit les prestats de certains joueurs.
C'est la bonne, celle-là, oui.
Mais si on attend beaucoup.
Ça fait 10 ans qu'on le dit.
Neymar va monter en puissance, je l'espère également. Ouais. Mbappé sur la lignée de ce qu'il fait est juste exceptionnel. Ça peut être, il y a tout pour que ce soit la bonne année.
Ouais.
Mais une Coupe d'Europe, on le dit encore,
et Abdel le disait.
Ça se gagne pas comme ça.
Cette année, elle est à nous.
Ah, mais pour la gagner, faut tirer dans le même sens.
Est-ce qu'il faut mettre Neymar 90 minutes? Moi, je sais pas s'il peut dire 90 minutes à Bernabéu ou Neymar, par exemple.
Je sais pas.
Même s'il revient, il reprend du rythme, etc.
Il peut commencer, hein.
Il est rentré en cours de match face au Real Madrid au Parc des Princes. Ça l'a pas empêché, malgré son faible temps de jeu, d'être à l'origine, justement,
de faire la différence. Hein.
Mais est-ce qu'il acceptera deux fois d'être sur le banc?
Non, je pense qu'il sait qu'il revient de très loin. Je pense qu'il le sait.
Il peut commencer, il sortira l'heure de jeu. Par exemple.
Hein. Et puis s'il se qualifie, il sait très bien que après, il y a les autres matchs qui arrivent. Il y a les quarts, il y a les demi, etc. Donc, faut avoir une vision long terme. Il n'est pas borné non plus.
Après lui, de rester dans son match aussi, parce que connaissant les Madrilènes, le connaissent aussi bien. Ils feront tout pour le faire sortir de son match aussi. Et ça arrive un petit peu souvent de sa part, où dès qu'il commence un petit peu trop à parler, il sort, et là, il devient, ça devient même un handicap pour le Paris Saint-Germain, malheureusement.
Ouais, non, c'est clair.
Oui, Vivien.
Non, et puis.
Ce Paris Saint-Germain.
Ben, et puis, malgré tout, moi, j'attends beaucoup d'un joueur qui a cette ballon d'or qui s'appelle Messi. Moi je crois
bien.
Beaucoup que sur une action, s'il est dans les bonnes dispositions, je crois beaucoup qu'il peut avoir cet éclair de génie.
Le Paris Saint-Germain.
On lui connaît, Messi. Malgré tout, voilà, c'est un compétiteur et il se dit, j'ai loupé un pénalty au match aller, j'ai loupé même des coups francs.
Je pense qu'on est dur avec Lionel Messi.
Il
change de championnat, il change d'environnement, il change de climat, il change de coéquipier. Il a commencé très doucement, mais là j'ai l'impression que ça va en s'améliorant. Il a certes loupé un penalty, mais quand on regarde son match, moi je me juge pas à la note que lui a mis l'équipe. Regardant les matchs, j'analyse sa prestation et je pense qu'il a été un vrai métronome.
L'équipe a fait n'importe quoi.
Tu penses au Messi de 2008, des années 2010, là c'est vrai que tu peux te dire ok, il se passe quelque chose.
Ça c'est l'équipe qui a fait du buzz.
Faut essayer de faire abstraction. Du Messi qu'on a vu au début de l'épopée Guardiola et le Messi qui a rejoint le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui est en meneur de jeu, qui est ici pour faire le lien entre le milieu de terrain qui est un peu à la traîne versus une attaque XXL, et il remplit très bien son rôle. Après Messi, c'est soit il marche sur la pelouse, soit il marche sur l'eau. Ce sera qui tout double à Bernabéu. C'est soit il passera à côté de son match, et peut-être qu'on parlera là tout de suite de la fin de Lionel Messi, peut-être. Ou soit il fera une prestation XXL et puis on lui prédit d'aller au bout avec le Paris Saint-Germain et pourquoi pas une saison en plus.
C'est vrai que ce match retour il est important à plus d'un titre. Bah déjà il y a le transfert ou pas de Mbappé au Real Madrid, cette confrontation, voilà, Paris-Real quand même qui existe depuis un petit moment avec avec ces transferts, ces tensions qu'il y a dans en coulisses. Messi, voilà, on connaît l'histoire avec le FC Barcelone. Et c'est vrai que sa saison, pour moi, il y a quand même un tournant le concernant, parce que alors on peut avoir, chacun peut avoir son avis. Moi, je me rappelle d'une action où il y a Danilo Pereira qui lui reproche de pas faire d'efforts, et on le voit complètement. Il y a un moment, même si on sait qu'il y a plus de niveau qu'il avait, etc. À lui de montrer aussi qu'il a vraiment envie de s'investir. L'attitude, elle est importante quand même. L'attitude, elle est importante.
L'attitude, elle était bonne contre le Real Madrid.
Tu sens que dans le jeu sans ballon, il y a un moment, il fait pas l'effort.
Un jeu sans ballon, il l'a jamais fait, Messi.
Ouais, mais le gars il passe, il marche à côté.
Même si on sait qu'il marchait beaucoup,
il y a un côté insupportable.
Si demain
le PSG se fait éliminer là. Tu t'imagines ce qu'ils vont prendre les mecs.
En tout cas, il a joué très bas, donc du coup, on peut pas le voir redescendre puisqu'il était déjà très bas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il a simplement changé sa façon de jouer. Il est dans un autre système, dans un nouveau schéma et dans l'intention. Moi, je pense dans les intentions de jeu, il était souvent à l'avant-dernière passe. Il était à l'origine de beaucoup d'occasions en triangle, etc. Moi, j'ai bien aimé le Lionel Messi. J'ai beaucoup plus aimé le Lionel Messi face au Real Madrid que le Messi de l'année dernière avec le FC Barcelone.
Et pourtant, il finit quand même comme les meilleurs buteurs, ouais, non il passe
là,
des,
je le sens plus impliqué.
En Liga, je trouve qu'il est pas mal l'an dernier en Liga.
En Liga, il était en bout de chaîne. Là, il participe plus au jeu. Là, c'est un Messi participatif.
C'est vrai, mais clairement, pour le moment, c'est quand même sa plus mauvaise saison au niveau.
Parce qu'après, le temps il passe.
Pour le moment, c'est triste à dire, mais c'est une réalité.
On va pas comparer des serviettes et des torchons, mais il y a même Gamero qui disait. Des serviettes et des torchons, j'ai dit.
Parce que Rotten, il a dit que c'était son frère jumeau qui était à Paris. Ouais. Il y a eu des mots très très durs.
Pour terminer, il est passé par des grands clubs. Ouais. Il est passé par Séville, il est passé par l'Atlético Madrid.
Valence.
Par Valence. Et il disait que justement, son entourage lui disait, la Ligue 1, ça va être facile pour toi, tu vas en planter des buts. Il s'est dit que la Ligue 1, c'est compliqué.
En revenant à Strasbourg.
Ah, assez costaud.
Et il découvre que la Ligue 1, c'est beaucoup plus compliqué que prévu.
Ouais.
Beaucoup plus compliqué qu'à l'époque où lui était en Ligue 1, justement, au Paris Saint-Germain. Et il a dit, il comprend pourquoi Messi aujourd'hui se heurte à un mur.
Rapidement, il y a un point dont on a. Pour rejoindre un peu ce que dit Gamero et ce que dit Mourad, il faut savoir que nos meilleurs joueurs à vocation défensive évoluent dans les meilleurs clubs du monde.
C'est vrai.
Non, mais défenseur central ou milieu défensif. En fait, les meilleurs clubs européens ont des Français dans ce secteur de jeu.
Je le rappelle, pour les auditrices et les auditeurs de Bord FM, à la suite de sa victoire en quart de finale sur le tournoi ATP d'Acapulco, Daniil Medvedev, le Russe, justement, a relativisé sa situation et notamment le fait de devenir le numéro 1 mondial du circuit. Un grand merci à toi Mourad, à Vivien, sans oublier le coach Tolé, ainsi qu'à la réalisation à la personne de Yanis, les community managers Farid et aussi sans oublier Nathan et Giovanni avec Sarah, mais aussi Merwan et Fred. Voilà, on vous laisse tranquillement, passez de bonnes vacances pour certains, mais aussi un bon week-end. Voilà, soyez tranquille à écouter Beurre FM à la maison, en transport, ou même en voiture, ou sur votre application. Et tous les replays, c'est bien ça, comme le disait Vivien, notre consultant, en podcast sur le site internet beurrefm.net. Très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h.